Très bien, donc je m'appelle Jean-François Tonnerre, je suis né le 24 janvier 1959 à Cannes. Je suis donc le neveu de Francis Tonnerre. Francis Tonnerre étant un résistant, mort à 24 ans, le dernier jour de la guerre, puisque Cannes a été libéré quelques heures après. Il est mort entre 20 et 22 heures et Cannes a été libéré à 24 heures. Donc c'était vraiment les heures ultimes. Alors, pourquoi je suis concerné par ça? Parce que Francis Tonnerre avait un frère qui s'appelait Ferdinand Tonnerre, qui donc était mon père. Lui aussi décédé à ce jour, puisqu'il est décédé en 1990. Et ce que je peux dire déjà sur son décès, si vous voulez, c'est que toute cette période qu'on va qualifier au moins d'agitée, voire dramatique, a eu l'influence toute sa vie. C'est-à-dire que même quand mon père était en fin de vie, il est mort, il avait 65 ans, cette période était présente en permanence. C'est-à-dire, ma mère le dira mieux que moi, mais toutes les nuits, il rêvait que la guerre continue. Donc on voit vraiment l'influence que ça peut avoir. Ce n'est pas quelque chose de neutre. Et moi, ça, je fais toujours un parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui en Irak. Et tous ces jeunes, tous ces gens, enfin, alors, je pose pas, c'est pas pour porter un jugement sur la guerre, mais la guerre, c'est vraiment atroce. C'est pas neutre, c'est-à-dire que quand elle s'arrête, elle continue. Les gens qui l'ont faite, elle continue. On peut imaginer que les gens qui ont fait aussi la guerre en Bosnie, tous ces gens d'Europe, les Européens qui ont fait la guerre encore récemment, sont aussi marqués. C'est des générations entières qui sont marquées. Bon, ça c'était un petit aparté pour dire que c'est pas gratuit, loin s'en faut, et que ça a des influences sur la vie familiale et sur la vie des gens pendant des décennies. Alors, la résistance, la résistance à Cannes, elle a démarré assez tard, puisqu'en fait, la France du Sud n'a été occupée que bien après la France au Nord. Hein, vous connaissez bien entendu toute l'histoire et la partition de la France. Elle était surtout organisée dans le Sud, la partie du Parti communiste, et donc mon père étaient tous des adhérents du Parti communiste, et la résistance est organisée autour du Parti communiste. Vous savez que dans un premier temps, il y avait le pacte germano-soviétique dont les communistes ne résistaient peu. Bon, faut dire qu'ils étaient à la fois communistes et à la fois gaullistes. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même très empreints d'école républicaine et donc ils étaient quand même tous très fiers d'être français. Donc, en fait, cette dichotomie qu'on a pu faire entre gaullistes et communistes dans les cœurs, elle était quand même, à mon avis, moins forte que ce qu'on a pu la présenter au niveau politique, au niveau national. Alors, Francis Tonnerre, c'était un paysan, c'était, vous savez, la vallée d'Assiagne, c'était le poumon vert, enfin, le ravitaillement de Cannes. À l'époque, il n'y avait pas les transports que nous connaissons, donc les gens vivaient sur les territoires, donc c'était des laitiers, ce qu'on appelait des laitiers, c'est-à-dire des gens qui avaient une ferme, qui produisaient du lait et qui vivaient en vendant leur lait, et puis qui faisaient un peu aussi... qui étaient aussi un peu des maraîchers, mais dans une moindre importance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est occupé, quand il y a eu l'occupation italienne, je dirais que les choses étaient plus faciles, elles n'étaient pas vraiment dramatiques. Par contre, quand les Allemands sont arrivés, là, il y a eu au début au moins l'organisation pour ravitailler la population, qui manquait de tout. Et donc ça, je crois que c'est les paysans de la vallée d'Assiagne qui l'ont déjà un peu organisé, et surtout Francis Tonnerre, qui a vraiment essayé d'apporter aux gens les plus modestes du ravitaillement, ce que faisait finalement aussi le docteur Picot au niveau des soins, qui après, à la sortie de la guerre, est devenu le maire de Cannes. Donc, Francis Tonnerre, ce que m'en souviens, c'était surtout des hommes d'action, c'est-à-dire que non seulement il a fait de la résistance de manière locale, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le Mur, et qu'il a été appelé dans des opérations à l'extérieur du département. J'en ai pour preuve, par exemple, un film qui a été réalisé à Toulouse, qui parle de résistants libérant le chef de la résistance belge qui avait été amené dans une forteresse à Toulouse, avec des résistants qui se sont déguisés en infirmiers. Parmi ces hommes qui sont rentrés dans cette citadelle, Francis Tonnerre faisait partie de cela. Donc voilà, c'était des gens qui avaient... un courage important. Sur un autre événement qui a marqué Cannes, que peu de gens savent, et ça c'est mon père qui me l'a raconté, par exemple le drame d'Hélène Vigliano, mon père me disait toujours que Francis Tonnerre voulait aller la sortir de où elle était. et que là, c'est par manque finalement de bras que ça ne s'est pas fait. Il était persuadé, il y avait 3-4 Allemands, il a dit on peut faire un coup de poing, aller la sortir de là où elle était. Donc voilà, c'était des hommes avec un idéal très fort, mais en même temps, c'était des hommes d'action, et puis ils étaient assez intelligents pour ne pas se faire prendre, puisqu'en fait, la Gestapo est venue, je crois, 2 ou 3 fois à la maison, perquisitionner la ferme, et ils n'ont absolument rien trouvé. Ce qu'on sait moins aussi, c'est que non seulement ils faisaient de la résistance, alors ils faisaient sauter des ponts, les têtes de V1 étaient construites aux Aciéries du Nord, à cette grande ville bocassienne, donc ils ont fait sauter plusieurs fois. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'ils ont souvent protégé les gens. Hein, c'est-à-dire que ma grand-mère et mon grand-père, qui eux aussi faisaient la résistance avec leurs deux fils, avaient quantité de personnes qui passaient à la ferme et qui étaient protégées. Donc, et comme ça, il est passé des gens des services secrets anglais. Donc, moi, je me rappelle à la sortie de la guerre, un monsieur qui s'appelait d'ailleurs paradoxalement Churchill, mais qui n'avait aucun lien de parenté. Et qui a été plusieurs fois à la ferme, protégé, caché. Il y avait le chef de la résistance de Venise, qui était une famille donc, de francs-maçons italiens, je crois, et qui ont séjourné à la ferme, puis longtemps, très longtemps. Il y a eu celui aussi, donc, que mon père avait gardé des liens aussi à la sortie de la guerre, c'est que Mussolini a été pendu par les pieds. Et le type, là, le résistant qui a fait ça... a séjourné aussi à la ferme Francis Tonnerre pendant des mois. Donc ça veut dire que il y avait des gens qui étaient cachés dans la ferme sans que les ouvriers agricoles ne le sachent. Hein. C'est-à-dire c'était très compliqué. Il n'y avait pas, aussi le modernisme aujourd'hui. Donc ça veut dire que ma vieille grand-mère, qui est décédée elle aussi, hein, qui est décédée à 97 ans, elle m'a raconté ça. Et bien, elle leur faisait à manger, elle leur lavait le linge, mais tout ça la nuit. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait plus personne, on allait nourrir les gens qui étaient cachés dans les combles de la ferme. Des fois, il y en avait jusqu'à 7 ou 8 en même temps, et ça a duré 2 ans. Donc c'est pas quelques jours, quoi. Donc, c'est des choses qui sont très très lourdes. Il y a des juifs, bien entendu, hein. Ils ont protégé de nombreux juifs. Donc, voilà un petit peu, ça a été toute cette ambiance. Donc, après, quels sont les coups qu'ils ont fait? Bon, moi, je connais plusieurs fois, mon père me disait qu'ils avaient fait sauter aux Aciéries du Nord, qu'ils avaient fait sauter les ponts. Le long de l'avenue de la Nationale 7 ou du bord de mer, bon, ça c'était les choses qu'il faisait. Il faisait aussi du renseignement avec au-dessus d'eux, hein, je dirais, quelqu'un qui lui n'était pas un homme de main, mais qui était celui qui organisait un petit peu tout, qui était Vahanian, qui est décédé il y a aussi 5-6 ans, qui était un Arménien. D'ailleurs, c'est très, très symptomatique cette résistance des communistes, des Arméniens, enfin, vous voyez. Dans le débat aujourd'hui qui agite sur l'immigration, ben là, à l'époque, si vous voulez, ces gens qui avaient choisi la France, qui n'étaient pas là depuis longtemps, hein, puisque le génocide arménien, c'était pas très vieux, ben eux, ils avaient déjà choisi de résister. Bon, il y a le célèbre réseau Manoukian à Paris, mais enfin, il y en avait d'autres, plus modestes, qui ont fait exactement la même chose dans des petites villes, et notamment à Cannes. Donc voilà un petit peu, moi, la résistance telle qu'on me l'a raconté. Alors bien sûr, après il y a eu les événements qui ont entraîné la mort de Francis Tonnerre, avec le débarquement de Théoul, des prisonniers français et américains faits par les forces nazies. Bon, ils font une opération coup de main, ils les libèrent. Et après, la mort en héros. Hein, ça par contre, on me l'a raconté plusieurs fois, donc je le sais. Les soldats américains et canadiens avaient ordre de prendre position, là où ils sont tous morts, d'ailleurs au pont du Béal. Et Francis Tonnerre, qui savait qu'il y avait encore une batterie allemande sur la croix des gardes, était chargé à la fois de les véhiculer, parce que c'est comme ça que ça se passait. Hein. La résistance accueillait les soldats américains, les véhiculait pendant quelques kilomètres, et d'autres résistants venaient les chercher pour... parce que ces gens avaient besoin de guides, hein, pour savoir où étaient les Allemands, les batteries. Bon. Et donc, la jonction est faite en début d'après-midi, et là, Francis Tonnerre leur dit, mais on ne peut pas rester là, parce qu'il y a une batterie sur la croix des gardes, et cette batterie va nous repérer et va nous arroser dès qu'on aura fait notre campement. Et là, le soldat américain aurait répondu, nous sommes des hommes de guerre, pas vous, donc on a hors de position ici, vous n'avez qu'à rentrer chez vous, et puis nous, et venir nous chercher dans la terre, enfin, et nous, on s'occupera de tout ça. Et il leur dit, mais si vous restez là, vous êtes morts. Et donc, il rentre à la ferme, il explique ça à son père. Son père part à pied à la croix des gardes essayer de voir les soldats allemands pour les raisonner en leur disant, bah, écoutez, la guerre, elle est perdue, elle est finie, partez, et on évitera encore des derniers drames. Et à ce moment-là, quand il va voir ses soldats allemands au sommet de la Croix des Gardes, c'est un détail qui a eu beaucoup d'importance. Il rencontre deux Bocassiens, je ne pourrais pas citer les noms, enfin, deux Bocassiens qui leur disent: mais où est-ce que vous allez, Père Tonnerre? Il dit: ah, mais je monte là-haut, je vais leur dire, mais il dit, on va vous tuer. Et on vous accompagne, que si jamais il se passe quelque chose, peut-être on pourra le dire au moins à vos fils et intervenir. Et là, les Allemands avaient repéré ces hommes-là. Et donc, ils ont cru qu'ils étaient dans un piège. C'est-à-dire qu'ils allaient partir et qu'on allait leur faire une embuscade. Et donc, ils ont refusé de partir. Et donc, ils ont attendu la nuit, ils ont tiré deux obus, ils ont tué tout le monde et ils sont partis. Donc, on voit qu'en fait, les choses se sont enchaînées avec un concours de circonstances très malheureux. On peut imaginer que si, par exemple, il avait été seul voir les soldats allemands à la Croix des Gardes sans croiser les gens qui avaient voulu l'aider ou le soutenir, ben, peut-être que les Allemands seraient partis et la vie aurait été différente. Donc, pourquoi mon père n'est pas mort? Ben, parce que Francis Tonnerre, sachant qu'il allait mourir, a donné un ordre à mon père de rentrer à la ferme en disant: écoute, c'est pas la peine qu'on y soit deux. De toute façon, on a de grandes chances de mourir ce soir, donc moi j'y vais parce que c'est mon devoir, mais toi tu restes à la maison avec papa et maman. Et donc voilà comment les choses se sont mises en place. Francis voulait absolument partir seul, et il y a deux résistants qui l'ont rejoint, Bergia et Mascarello. Bergia a perdu la vie avec Francis Tonnerre, et Mascarello, lui, a été grièvement blessé à la jambe. Ce qu'il faut savoir dans ce drame, si vous voulez, c'est que le lendemain, on ne trouvait pas les corps et donc on ne savait pas où étaient les gens. C'est-à-dire que mon père, avec son père, sont partis faire toutes les cliniques les hôpitaux de campagne, entre guillemets, pour voir si... parce qu'on disait, oui, mais ils ont été embarqués dans des camions, ils sont blessés. Et d'ailleurs, pendant des jours et des jours, à Saint-Raphaël, à Fréjus, ils faisaient des hôpitaux de campagne cherchant. Et un jour, on leur dit, oui, il y en a un de Cannes qu'on a récupéré, qui est bien blessé, qui est là-haut. Et donc, le père et le fils ont monté en courant, en sachant qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient trouver. Ils allaient trouver leur fils. Et ils ouvrent la porte et ils trouvent Mascarello. Et mon grand-père disant, bah, écoute, c'est toi, je suis content que ce soit toi. Et donc, ce n'était pas son fils. Et son fils, d'ailleurs, le cercueil à Cannes est vide. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais trouvé le corps. Hein. Et d'ailleurs, la politique est marrante, enfin, entre guillemets, puisque quand j'ai été à Yvan-en-Brochamp, j'ai recroisé quelqu'un qui m'a expliqué avoir porté le portefeuille de Francis Tonnerre à ma grand-mère, le portefeuille que j'ai toujours, et en labourant son jardin à côté des impacts des bombes, et ça 10 ans après. Et donc, en fait, si vous voulez, ma grand-mère avait toute sa vie un lambeau de pantalon bleu comme avaient les paysans à l'époque, et le portefeuille. Mais autrement, le corps a été complètement déchiqueté, et la boîte au cimetière de Cannes est vide. Donc voilà un peu tout ce que mon père m'a raconté, plus ou moins, sachant qu'ils étaient très pudiques et quand on voulait avoir des détails, ils disaient simplement on a fait ce qu'on devait faire et puis maintenant il ne faut pas en parler. Donc voilà un petit peu moi comment j'ai ressenti ce qui s'est passé, sachant que je le disais tout à l'heure en préambule, ça a énormément d'importance sur la vie, hein, ça a conditionné toute la vie de mon père et indirectement celle de ma mère. En sachant que c'est vraiment pas neutre, quoi. Et s'il n'y a qu'une seule chose que les générations futures doivent retenir, c'est que la guerre, c'est pas neutre. Et puis, les impacts, ça ne s'arrête pas à l'armistice ou à la fin de la guerre, mais pour ceux qui l'ont faite, c'est à jamais. Donc voilà ce que moi je peux dire sur cette guerre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, je peux rajouter que, quelque part, moi, ça a aussi influencé ma vie, hein, puisque... Je pense que j'aurais pas eu l'engagement politique que j'ai si j'avais pas porté le nom que je porte. Quand j'étais gamin, je comprenais pas pourquoi l'avenue portait mon nom. J'avais 7 ou 8 ans, mais c'était une interrogation permanente. Et puis voilà. Puis Francis Tonnerre, en fait, c'est un peu personnel ce que je vais dire, mais il m'a ouvert des portes toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que ce pauvre garçon qui est mort à 24 ans, moi j'ai eu la chance de porter son nom, et partout où j'ai été dans la vie, les portes sont ouvertes. Donc voilà, je pense que quand je peux, ben je lui rends hommage. Puis en même temps, je rends hommage à mon père, qui bien sûr était son frère et l'a accompagné dans tout son cheminement. Enfin, c'était des hommes très malheureux, très courageux.
Et comment vous expliquez l'engagement de toute votre famille?
Ils étaient très marqués, politisés. Il faut savoir que Francis Tonnerre, par exemple, en 1936, était allé s'engager dans les forces républicaines en Espagne. Donc vous voyez, et il avait été refusé parce qu'il était mineur. Donc vous voyez, c'est quand même des gens, je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à assimiler le poids des idéologies de l'époque. Hein. C'est quand vous relisez l'histoire, les événements d'avant la guerre, tous ces corps à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche qui s'étaient constitués, qui manifestaient, je crois que l'idéologie, elle était... aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. On voit dans le débat présidentiel, il n'y a plus d'idéologie. À l'époque, l'idéologie était très très forte. Hein. Il y avait le choc entre le monde communiste et le monde catholique. Donc le rôle de l'Église qui était certainement apeuré par ce communisme qui gagnait l'Europe. Donc je crois que tout ça a été très très lourd. Francis Tonnerre, oui, il a été faire la guerre d'Espagne. Il n'a pas fait parce qu'il était trop jeune. Et puis il était aussi révolté par l'attitude française. Hein, parce qu'en fait, il avait été mobilisé en 39-40 quand il y a eu la déclaration de la guerre. Parce que lui, là, il avait l'âge. Et il disait à mon père, c'est mon père qui me racontait, que quand ils étaient au front, par exemple, alors moi je vais vous donner des mesures qui ne sont pas exactes, parce que je ne suis pas un spécialiste d'artillerie, mais enfin, ils n'avaient pas les obus en correspondance des canons. Donc je veux dire, ils avaient l'impression que la France avait été vendue. Quoi. Donc ça, ils étaient excessivement révoltés par ça. Quoi. Donc, si vous voulez, par cette incapacité française à s'organiser. Hein, et le seul qui avait vu juste, c'était De Gaulle. Et d'ailleurs, les bouquins... De Gaulle étaient les bouquins de chevet des officiers allemands. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'organisation des Panzerdivisions, par exemple, avait été faite par rapport à des bouquins que Charles de Gaulle avait écrits avant la guerre. Bon, tout simplement, c'est très simple. C'est-à-dire que tous les généraux français avaient 20 chars chacun, et les Panzerdivisions, ils avaient regroupé 100 chars, 200 chars, 1000 chars, je ne sais pas combien. Mais ils avaient une force de frappe qui était équivalente, hein, parce que quand on mettait en parallèle l'armée française et l'armée allemande en 39-40, avant que la machine allemande soit vraiment aussi opérationnelle, les forces étaient tout à fait comparables. Donc c'est bien vraiment un problème d'organisation humaine, de vision, de stratégie, qui était absente en France et qui était présente à l'Allemagne, hein, puisque bon, on avait fait la ligne Maginot, sauf que pour ne pas vexer la Belgique, on n'avait pas continué et que les Allemands sont passés par l'Hollande et par la Belgique et qui sont déboulés vers Paris et Dunkerque. Donc voilà, quoi. Donc ça, je pense que c'était... ils avaient un sentiment de revanche qui était très très fort. Hein. Bon, c'était la République, hein. Ils avaient été élevés sur...
Ils avaient fait des études?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ils étaient très brillants à l'école, mais surtout mon père était beaucoup plus brillant que Francis Tonnerre à l'école, mais il n'y avait pas d'argent et à 12 ans, on travaillait à la ferme, quoi. Donc,
mais comment ils avaient reçu, je sais pas, de l'aide de quelqu'un parce qu'ils avaient des idées.
C'est sûr que le Parti communiste avait compris qu'il y avait un moyen là. Donc en fait, si vous voulez, très tôt, ils étaient embrigadés par le Parti communiste. Hein. Et donc, il y avait les cellules du Parti communiste.
C'était au Suquet ?
Je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, la cellule s'appelle Francis Tonnerre. Peut-être au Suquet, parce que mon père a passé sa vie au Suquet. Et donc, sûrement au Suquet. Vous savez, les gens étaient très pauvres à l'époque. Donc, être communiste, c'était se révolter contre la pauvreté. La France était, en 1940, c'était la France du 19e siècle. Hein. Quand vous regardez, par exemple, des documentaires sur les États-Unis, on s'aperçoit qu'on était à des années-lumière des États-Unis. Il y avait déjà des autoroutes, des voitures dans les villes. Eux, ils étaient encore avec leurs charrettes et leurs chevaux. Donc, on avait pris beaucoup, beaucoup de retard, d'ailleurs, dû à la Première Guerre mondiale, hein, le déclin de la France et de l'Europe, il est là, quoi. On a saigné en 14 les générations d'hommes et on les paye encore aujourd'hui, hein, j'en suis persuadé. Donc, tout ça pour dire que je pense que le Parti communiste, j'ai retrouvé des cahiers de mon père. Et avait un rôle, alors on peut le blâmer, hein. C'est facile de le faire aujourd'hui, mais avait un rôle éducateur, quoi, hein. C'est-à-dire que quelque part, il les incitait à lire, alors les lectures étaient orientées. Mais les inciter à lire et je pense que ça, si vous voulez, c'était parce qu'ils avaient soif d'apprendre, ils voulaient aller à l'école, mais il n'y avait pas d'argent et donc on les empêchait, hein, la bourgeoisie canoise allait à Stan et mon père, par exemple, bon, à l'époque c'était le certificat d'études, il l'a passé avec 2 ans d'avance, il était sorti premier et l'instituteur était venu voir mon grand-père en lui disant il faut absolument qu'il fasse des études, il est brillantissime, et le grand-père a dit mais il y a la ferme, on a besoin de bras et il ne peut pas faire d'études, quoi. Donc voilà un peu, c'était la pauvreté, hein, donc c'était la pauvreté, l'ascenseur social il marchait pas bien, il a marché plus tard, mais à l'époque il marchait pas, les gens après ils se révoltaient, essayaient de faire, et là le Parti communiste avait un terreau formidable, et donc ils avaient compris qu'ils pouvaient capter, d'ailleurs le Parti communiste à la sortie de la guerre était très puissant, hein, De Gaulle, d'ailleurs, a été obligé de l'intégrer dans ses calculs politiques. Mais ils étaient intégrants, ils étaient, comment dirais-je, ils avaient un côté opportuniste, et puis ils avaient un côté organisationnel que n'avait pas le reste des autres partis. Hein, donc ils ont eu un champ devant eux extraordinaire.
Et après-guerre, comment votre famille a vécu avec ce souvenir de Francis Tonnerre?
Oh, ça a été vivace, c'est-à-dire que c'était très pudique, on n'en parlait jamais. Donc ça, je veux dire par là que on sait peu de choses, mon père parlait peu, mais bon, on sentait que c'était lourd, hein, on sentait que ça avait été le drame familial, surtout pour un père et une mère. En plus, nous, familialement, il y a unité de lieu, hein, c'est-à-dire qu'on habite tous au même endroit, sur le même terrain, il y a plusieurs maisons. Donc il y avait unité de lieu, donc on sentait bien que ça avait été lourd, quoi. Puis pour perdre un fils à le dernier jour, à la dernière heure, alors qui sait qui va mourir. Enfin, c'était vraiment, quelque part, c'était vraiment d'un héroïsme total. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on ferait la même chose. Moi, je m'interroge, mais je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire la même chose. Là, les gens, ils avaient un sens du devoir qui était quand même incroyable. Parce qu'il suffisait qu'il rentre chez lui, il attendait 4 heures, et puis c'était fini. Puis il était quand même le héros du coin, parce qu'il avait fait des actions de résistance. Mais c'est pas comme ça qu'ils concevaient les choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait des miracles, hein, avec cette résistance.
Il avait une femme, Francis Tonnerre.
Il avait une femme. Ils étaient mariés tous les deux, d'ailleurs. Et tous les deux séparés, mais pendant la guerre, on ne pouvait pas divorcer. Donc, ils n'avaient pas divorcé.
Il n'avait pas d'enfant.
Non, il n'y avait pas Francis Tonnerre, n'avait pas d'enfant. Non, il n'y avait pas d'enfant. Donc, mais c'est très lourd, très.
Et est-ce qu'après-guerre, justement, le fait que vos grands-parents aient caché des enfants, des familles juives,
ils n'en ont jamais parlé.
Jamais parlé.
Non, ils pourraient être sur le mur des justes, mais ils n'en ont jamais parlé.
Personne n'avait recherché à les remercier.
Non. Non, d'ailleurs, si vous voulez, ce qu'il faut dire, c'est que je vais vous raconter une anecdote, c'est-à-dire qu'en 95, c'est le 50e anniversaire de la Libération, Michel Mouillot était maire. Et donc, comme moi, je portais le nom de Francis Tonnerre, on m'invite à un grand repas au Palm Beach, la marine américaine qui était dans la baie de Cannes. Et on me dit, il y a un repas officiel avec l'armée américaine, est-ce que vous voulez représenter la résistance? Alors moi, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien venir à titre personnel. Mais moi, je suis né en 1959, donc je ne peux pas me tabler d'être un quelconque résistant. Mon père est décédé, donc je veux bien venir, mais à une seule condition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des résistants qui sont vivants, qu'on fasse une table avec les résistants vivants actuellement. Donc Mouillot trouve l'idée sympathique. Donc, c'est un repas au Palm Beach formidable, enfin, super, le Palm Beach dans toute sa beauté. Et donc, une table, c'est la table numéro 2 ou la numéro 3, avec les anciens résistants et leur épouse. Et donc, ça, c'était en 95. La plupart de ces résistants étaient quasiment tous communistes, presque. Et donc, ils viennent à la fin de la soirée, on discute un peu, ils me parlent de mon oncle. Enfin, et ils me remercient, ils me disent, oh, c'est gentil, grâce à toi, on a été... Donc, ces gens-là... qui avaient fait la résistance à Cannes, n'avaient jamais été au Palm Beach de leur vie. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, Francis Tonnerre a toujours été reconnu par la ville. Bon, parce que Picot a été maire, et tout de suite la rue a été donnée, donc si vous voulez. Mais les autres qui avaient accompagné, qui étaient peut-être, on ne va pas faire l'échelle de l'héroïsme, qui étaient peut-être un peu en retrait par rapport à lui, et encore, les autres avaient... Les dommages de la vie, ils ont été faibles. C'est pour ça que quand j'ai été élu, moi, les 4 ou 5 qui étaient encore vivants, j'ai essayé de faire le maximum de choses. On a chauffé des discours à l'avocat, leur rendant hommage, le maire l'a fait à plusieurs reprises. Parce que j'ai trouvé que si vous voulez, ces gens-là qui étaient simples, mais qui avaient été héroïques, ben, on les avait un peu oubliés. Alors, non, je pense que si vous voulez, malheureusement, c'était les communistes, hein, donc... Et après, il y avait l'idéologie, puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Alors, on n'a pas tellement envie de les glorifier, ces gens-là. Non, je crois qu'ils ils ont un peu été oubliés. D'ailleurs, le Parti communiste, ça n'est toujours servi. Hein. Il suffit de lire le journal qui était basé à Valoris, hein, qui est je dirais que là, si vous voulez, certainement que l'idéologie a marqué les choses et il y a eu moins de reconnaissance que de la ville. Il y a un grand résistant aussi à Cannes, hein, au moins l'équivalent de Francis Tonnerre, qui est Michel Jourdan, qui est mort au Vercors, dont les parents étaient, je crois, un peu la bourgeoisie de Cannes, bocassienne, qui avait un peu récusé leur fils parce qu'il voulait résister, et qui était mort au Jourdan, qui est mort dans le Vercors. Donc lui aussi, si vous voulez, c'est un type qui avait un grand courage et aussi une grande idéologie. Alors, est-ce qu'il était communiste ou pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une nièce descendante de Michel Jourdan, que connaît d'ailleurs très bien Gilles Sima. Si vous voulez connecter, vous pouvez le faire grâce à ça. Gilles Sima étant un ancien élu de la municipalité Bouillot, qui aujourd'hui est encore élu au conseil municipal, qui est un charmant garçon, et le fera, je le sais, bien volontiers. Vous pouvez l'appeler de ma part. Donc voilà, si vous voulez, en deux mots, notre résistance, quoi. Donc, après, sur l'ambiance, sur l'époque, peut-être ma mère pourra vous dire plus de choses, notamment sur l'occupation italienne, qui était... il y avait beaucoup d'Italiens ici, si vous voulez, c'était pas très contraignant. Quoi. Par contre, quand les Allemands sont venus, les choses ont changé.
Ben, merci.
Voilà, ça vous suffit comme... Ouais. Ce que je peux ajouter aussi, c'est pour montrer l'engagement idéologique et à la fois le respect des choses, c'est qu'à la fin de la guerre, il y avait un homme d'une grande famille cannoise, connue, qui s'était approprié les maisons juives de la rue d'Antibes. Et ce monsieur, en fuite, à Vichy, donc a été donné ordre à mon père d'aller le chercher avec une traction avant, avec deux autres résistants, dont un juif, deux autres personnes, dont un juif, je ne connais pas les noms, hein, personne, mais je sais que c'est vrai, ça mon père me l'a raconté à plusieurs reprises, d'aller le chercher à Vichy pour le faire traduire en justice ici. Donc ils sont allés le chercher, ils l'ont ramené, et en cours de route, si vous voulez, dans la vallée du Rhône, ils s'arrêtent, et à ce moment-là, ils sortent ce type qui les supplie de le laisser partir, parce que là, le gars ne savait pas ce qui allait lui arriver, hein, il s'était quand même approprié les maisons juives de la rue d'Antibes. Et donc, un des trois membres de cette équipe qui était allé le chercher descend le gars près du fleuve, donc le Rhône, et lui met un pistolet sur la tête et lui dit: bon, maintenant je vais te tuer. Et à l'époque, mon père lui arrache le pistolet des mains et lui dit: écoute, on n'est pas là pour le tuer, on n'est pas là pour le juger. Il va être jugé à Grasse ou à Nice, je ne sais pas où ça s'est passé. Donc, il y a une altercation entre les deux. Il dit: on a dit qu'on a pris l'engagement de le ramener vivant, on le ramènera vivant. Et ils ont ramené ce type vivant à Cannes. Il n'a subi aucun sévice. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, dans quelle ambiance. Et ça, c'était juste quelques jours, enfin, quelques semaines après la guerre, quelques mois peut-être après la guerre. Après la guerre. Voilà. Après, si vous voulez, je vous dirai.